9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Sécheresse, pénurie, inflation, autant de mots qui sont beaucoup revenus depuis la rentrée. Eh bien, comme on est au pays du vin, on va voir ce que ça donne dans un vignoble. Valérie Guérin est à la tête du domaine des Mille Vignes, le château Pétrus du Languedoc. Elle est ma première invitée ce matin. Je recevrai ensuite l'économiste Daniel Cohen pour son livre Homo Numericus sur la civilisation qui s'annonce et l'ancien juge d'instruction Gilbert Bertil, qui publie « Faites entrer l'accusé » ou « Comment se faire acquitter sous les applaudissements » alors qu'on a reconnu son crime et même l'avoir prémédité.
Europe 1.
Bonjour Valérie Guérin.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes vigneronne, le domaine d'Émile Vigne, c'est 11 hectares. Hein, je disais, on dit que c'est le Pétrus du Languedoc. C'est un vin que des chefs comme Pierre Gagnère ou Pierre Sang recommandent à leurs clients. Alors les exportations de vins français ont battu des records en 2021, notamment vers les États-Unis. Joe Biden ayant levé les taxes douanières décidées par Donald Trump à la suite du conflit entre Airbus et Boeing. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Alors, on nous parle de la sécheresse. Est-ce que la sécheresse est un problème pour vous?
La sécheresse a précipité nombre de vignerons à cueillir plus tôt cette année. Nous, au Mille Vignes, nous avons commencé hier, le 24 septembre, à cueillir nos premiers rouges. J'ai observé que les sources coulaient toujours cet été, qu'elles n'étaient pas taries, qu'il y avait encore de l'eau. L'année dernière, c'est vrai, en revanche, on pouvait dire qu'on avait un taux de pluviométrie qui était plus ou moins égal à celui de la Libye, c'est-à-dire pas grand-chose, genre 345, 360 millilitres par an étaient tombés. Cette année, en revanche, il y a quand même de l'eau. Alors, les températures, en revanche, ont augmenté, c'est vrai. On a pris 2-3 degrés de plus, mais l'eau est toujours là quand même.
Mais j'ai envie de vous demander pourquoi les autres ont déjà fini de vendanger et vous commencez à peine.
Je cherche constamment, depuis plus de 20 millésimes, à cueillir au plus juste, aux plus belles maturités, pour avoir des tanins très fins, très élégants, très suaves, dans une zone où on pourrait trouver plus de rusticité, où on pourrait avoir cette habitude-là. Alors la vraie maturité, ben, je l'ai eue sur les rouges il y a 2 jours seulement.
Mais les autres, voilà. Ils s'en fichent de la maturité?
Alors non, je pense qu'ils sont plus... Moi, je suis une adepte du slow wine, je prends le temps, ma seule urgence serait presque ma patience. Alors depuis, il y a 10 jours encore, dans les vignes, notamment dans la vigne que j'ai cueillie hier, de Carignan vieux et encore pimpant, de plus de 75 ans, je m'autorisais il y a 10 jours encore à enlever des grappes alors que mes voisins de parcelle, eux, à la machine à vendanger, mettaient les raisins dans la benne. Donc c'est deux approches différentes, une qui est ultra mécanisée et l'autre qui appelle plus de main-d'œuvre, peut-être plus de manuel.
Justement, à propos de main-d'œuvre, on dit qu'il y a pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que c'est le cas ?
Oui, moi ça se fait à façon. J'ai besoin de beaucoup de main-d'œuvre, mais la main-d'œuvre se fait rare. Oui, la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre est élevé, mais la main-d'œuvre est de moins en moins qualifiée. Donc ça pose problème. À tel point que nous, on est sur une exploitation de 11 hectares 20. Eh bien, nous travaillons en famille. Mon père, qui était prof du vitigno, nous a appris, nous a transmis son savoir-faire. Et ma sœur et moi, aujourd'hui, travaillons sans compter les heures passées. Je prends le temps non seulement de cueillir, je prends le temps des vinifications longues. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir avoir des vinifications pour avoir des petits fruits faciles à boire de 10-15 jours. Moi, j'observe que depuis plusieurs millésimes, les vinifications s'étirent pendant 40-50 jours. Et après, les élevages aussi, ils durent plus d'un an, 1 an et demi, voire 2 ans. Et je donne à boire nos différentes cuvées, Denis Royal par exemple, celle qui provient de la vigne de mes très vieux Carignan, je donne à boire en ce moment seulement le millésime 2017. Mais donc soyons un peu plus patients,
quel est l'intérêt de ne pas être patient?
Je pense que c'est un intérêt économique à court terme. Voilà. Donc nous avons une entreprise aujourd'hui qui est très saine, qui n'est pas surendettée, qui peut faire face au remboursement du PGE. Nous avons une clientèle qui est fidèle, qui est stable. Nous n'avons pas choisi de nous développer davantage en volume, et pourtant dans le Languedoc, le prix de l'hectare n'est pas très cher. En restant sur une taille de 11 hectares 20 à 3 personnes, voire 4 à travailler, on arrive aujourd'hui à bichonner toutes les cuvées. Aujourd'hui, je suis assez heureuse de dire qu'au Millevigne, nous n'avons pas la fameuse entrée de gamme et la super cuvée prestigieuse. Aujourd'hui, tout est à niveau. Il n'y a pas une cuvée plus qualitative que l'autre. Ma cuvée Atsuko est aussi belle que ma cuvée Chasse Filou, qui pour autant a un prix plus accessible. Mais là, je m'autorise à partager le rare en rendant ce prix plus accessible.
Et alors, est-ce que vous êtes au niveau sur le plan des bouteilles ? On parle de pénurie de bouteilles, c'est le cas ?
Oui, c'est depuis plusieurs mois, en effet. Alors, non seulement les prix ont augmenté, j'ai reçu hier un mail de 10 octobre, 5% de hausse, mais encore ça, on peut l'absorber quand on fait du vin qualitatif et qui est valorisé sur le marché. Mais le vrai problème, c'est la pénurie. Moi, je voulais, pour mes mises en bouteille du millésime 2017, je voulais faire une commande pour mes 5 cuvées de rouge, commande du même format de bouteille. Eh bien, le fournisseur, très gentil au demeurant, me dit « Non, je ne peux pas vous fournir ça. Vous aurez un type de bouteille élite, une bouteille que j'utilise habituellement assez haute, et à ça, je vous propose une bouteille type bordelaise classique. » Donc mes clients pourraient penser que j'ai une cuvée prestigieuse, élégante, haute en épaule, allongée, et une cuvée plus trapue, plus rustique, plus simple. Ce n'est pas le cas. Mais je suis obligée de faire face à ça. D'autant que je produis peu de bouteilles. Donc le fournisseur ne va pas pour une production de 20 000 bouteilles à l'année remuer ciel et terre. Je voulais faire ma cuvée Les Vendangeurs de la Violette, faire 100 magnums. J'ai pas pu trouver 100 magnums.
Ah oui.
Voilà. Donc oui, on est au quotidien confronté à cette pénurie. Pénurie de bouteilles, pénurie de cartonnage, pénurie de capsules congées.
La capsule, c'est ce qu'on met sur le bouchon.
Oui, 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 c'est ce qu'on met sur le bouchon. C'est le dernier acte du vigneron avant de transmettre ses bouteilles. On est sur du manque. On est sur du manque de tout.
On fait une pause, Valérie. On se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Valérie Guérin, qui est vigneronne. Elle est à la tête du domaine des Mille Vignes. Problème de main-d'œuvre, elle serait moins qualifiée qu'avant. Pénurie de bouteilles, pénurie de cartons d'emballage, pénurie de capsules, ce qu'on met sur le bouchon. Le coût du transport, lui, on parle de 100% d'augmentation. Est-ce que c'est le cas ?
Alors là, j'ai perdu pied. Je dois dire que ça ne cesse d'augmenter pour une qualité de service qui ne cesse de diminuer. C'est problématique.
À ce point-là ?
Surtout sur le marché domestique. Aujourd'hui, oui, c'est improbable. C'est improbable.
Si j'ai bien compris, c'est avantageux, au fond, économiquement, de vendre à l'étranger plutôt qu'en France. C'est vrai ? Quand on les vend à Singapour, on est payé immédiatement dès que les vins sortent de la cave, alors que quand on les vend en France, on est payé à 30, 60, 90 jours.
On observe que de nombreux vignerons privilégient les ventes à l'export plutôt que les ventes sur le marché français. Certaines bouteilles sont quasiment introuvables en France, alors que, par exemple, à l'île Maurice, dans l'océan Indien, aux États-Unis, en Asie, on les trouve avec facilité. Alors moi, je me refuse à faire ça. Je suis reconnaissante au chef français, Pierre Gagnère, pour donner un nom, qui nous a fait confiance dès nos débuts en mettant en avant nos vins dans son prestigieux restaurant parisien 3 étoiles. Donc je pense aujourd'hui qu'il se doit d'avoir les Mille Vignes avant d'autres personnes au bout du monde. Je ne renonce pas à envoyer toutes nos cuvées à Singapour, à Hong Kong, à Tokyo, en Belgique. Pour autant, en premier, je privilégie, je dirais, le marché français. Nous produisons des vins français. Il me paraît légitime que nos vins soient d'abord sur le territoire français.
Les vignerons doivent rembourser les prêts Covid. Ils sont souvent très endettés. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui ? Est-ce que vous avez cette épée de Damoclès ?
Alors oui, j'ai un PGE, j'ai un remboursement, mais nous avons géré notre petite structure depuis le début de façon, je pense, très sérieuse. Nous avons fait des choix stratégiques tout au long du développement. Et aujourd'hui, je dois dire que l'entreprise fonctionne bien. je ne vais pas aller chercher des aides financières à l'extérieur. J'assume mes choix. Je pense que mes choix stratégiques ont été bons, de privilégier des cuvées très soignées, en respectant le terroir, en mettant en avant des cépages qui ont une identité que l'on ne retrouve pas partout à travers le monde, en refusant une certaine norme, en valorisant nos territoires.
Mais pourquoi, Valérie Guérin, pourquoi ne pas vous agrandir ? Vous aviez l'air de dire tout à l'heure, la terre n'est pas si chère dans le Languedoc, que pourquoi ne pas faire plus grand ?
Alors, la terre n'est pas si chère au regard des prix effectivement pratiqués dans le Bordelais, en Bourgogne, en Champagne, dans d'autres régions viticoles françaises. En revanche, aujourd'hui, nous pouvons être fiers de proposer des vins du Languedoc, tous élaborés avec le plus grand soin. Aujourd'hui, de mes 11 hectares, je fais aussi bien du rouge, du blanc, du vin doux naturel que des rosés. Donc l'exercice pour moi est assez complet au niveau des vinifications et des élevages. Et je maintiens un niveau de qualité sur tout. Je vais donner un exemple très simple. Au lieu d'avoir 30 hectares de vignes, j'en ai beaucoup moins, n'est-ce pas ? D'une parcelle de vignes que j'aimerais appeler un jardin, je m'autorise à faire 3 vins différents. Alors c'est sûr, j'en produis beaucoup moins que si j'avais 3 parcelles. Mais de ces 3 parcelles de vignes, je fais une première cueillette mi-septembre, je sors en rosé. Je reviens avec mes amis vendangeurs de la Violette, cueilleurs passionnés, cueillir un rouge que j'appellerai Atsuko. Et je reviens ensuite, après le passage des sangliers, des lapins et des cueilleurs sauvages, fin novembre, et j'élabore un troisième vin que j'appelle le noir de grenache. En fait, d'une vigne aujourd'hui, je crée 3 vins différents, et tous de même niveau. Je pense que ça serait plus difficile de travailler à 3 ou 4 personnes davantage de vignes et que je ne maintiendrai pas ce haut niveau de qualité. Je pense que ça n'irait pas avec l'excellence, d'autant qu'on en a parlé tout à l'heure, nous avons une pénurie réelle de main-d'œuvre qualifiée.
Dernière question, Valérie Guérin, puisque je vais recevoir dans un instant Daniel Cohen pour son livre Homo Numericus et les ventes de vin en ligne. Alors, la pandémie leur a donné un coup d'accélérateur, surtout auprès des moins de 40 ans. Est-ce que ça se maintient ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un véritable marché pour le vin sur Internet ?
Alors, ça a été effectivement un constat, ça a été exceptionnel, les ventes de vin pendant le confinement. Au début du confinement, cette clientèle commandait le week-end, et à mesure de l'installation du confinement, tous les soirs de la semaine, nous avions des commandes de vin avec effectivement une clientèle de plus en plus jeune. Et donc, c'est assez chouette. Et aujourd'hui, je dirais que cela se maintient. Et à nous d'entretenir notre site, de le faire vivre, de transmettre notre savoir-faire, notre savoir-être. Donc, vous pouvez aller effectivement nous visiter, commander en ligne sur le site du domaine Les Mille Vignes.
Merci beaucoup Valérie Guérin, je vous souhaite le meilleur pour la suite et on a maintenant rendez-vous avec Daniel Cohen.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et voilà Daniel Cohen, bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous êtes économiste, président de l'école d'économie de Paris et vous publiez Homo Numericus, la civilisation qui vient chez Albin Michel. La révolution numérique, est-ce que c'est une révolution industrielle de plus ?
C'est une révolution industrielle de plus, absolument. Elle fait suite à la révolution du charbon au 19e siècle, de l'électricité au 20e. Et comme les révolutions industrielles du passé, elle cherche au fond à quoi faire, à rendre les gens plus productifs. La différence, c'est qu'au 19e et au 20e, ce qu'on cherchait à rendre plus productif, c'était le travail de l'homme sur la matière. Dans les grandes usines fortes du début du 20e siècle, on cherchait à réduire le temps nécessaire à fabriquer les voitures. La nouveauté, c'est que cette fois-ci, ce qu'on cherche à réduire, c'est le temps de l'interaction entre les humains eux-mêmes. C'est en ça que c'est une révolution industrielle comme les autres, mais tout à fait différente dans ses effets, on va dire, anthropologiques.
Hier, avec le travail à la chaîne, écrivez-vous, l'homme devenait une machine. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est la machine qui devient humaine.
Oui, c'est ça le renversement total qui est en train de se produire. Au fond, ce dont il s'agit, c'est très simple, c'est de faire que dans toutes les situations ou dans une société de services comme la nôtre, on rencontre quelqu'un pour être soigné, pour être éduqué, un coach sportif, tout ce que vous voudrez. Dans cette interaction, il y a deux humains qui doivent se déplacer pour se rencontrer et le prestataire est en face du client pour pratiquer son art. Ben, c'est très coûteux et donc on va chercher à dissocier tout ça en essayant dans toute la mesure du possible de substituer l'un des deux, le prestataire, par un algorithme. Donc vous allez être soigné par un algorithme, vous allez, dans la mesure du possible aussi, si vous devez rencontrer un médecin, le faire à distance. Et le télétravail est la forme emblématique de ce qui se cherche dans ce nouveau capitalisme numérique.
Hier, avec le travail à la chaîne, l'homme devait être une machine, mais l'homme peut tout de même, encore aujourd'hui, devenir une machine. Hein. Un homme augmenté, il l'est déjà, d'une certaine manière, avec son smartphone.
Alors, on est fait déjà, en réalité, avec le smartphone, en train de réaliser une synthèse entre le silicone et le biologique. On a beaucoup de mal, enfin moi le premier, à penser sans avoir tout de suite la tentation d'aller chercher sur le smartphone l'information qui vient. Donc oui, on est non seulement face à des algorithmes, mais nous-mêmes, y compris comme consommateurs, nous nous algorithmisons, c'est-à-dire que nous avons besoin de ce renfort de la machine pour penser plus vite, mieux, ce qu'on voudra, mais en tout cas pour penser autrement.
Mais justement, est-ce que Homo numericus sera plus intelligent que ses ancêtres ?
Alors, il sera plus intelligent au sens où il pourra gérer une quantité infernale de données. Enfin, on a, encore une fois, dans nos smartphones, des capacités de brassage de l'information qui excèdent un facteur, je ne sais pas lequel, je vais dire 10 ou 100, celle de Cap Canaveral quand ils envoyaient les hommes sur la Lune.
Donc et en matière de statistiques, on dispose de statistiques, de calculs statistiques que seuls les États autrefois et les entreprises les plus grandes pouvaient s'offrir.
Exactement. Donc on a une machine à calculer qui est absolument extraordinaire. Le problème, c'est qu'on le voit quand on va fréquenter les réseaux sociaux, ça se fait beaucoup au détriment de l'intelligence au sens ordinaire du terme. C'est-à-dire que la capacité simple d'avoir une discussion philosophique sur les réseaux sociaux, et on sait que l'intelligence, elle est toujours au contact d'autrui. On n'est pas des savants fous en train de remplir des équations. Nous nous hissons au-dessus de nous-mêmes, comme je le fais avec vous ce matin, Frédéric, en parlant, c'est-à-dire en échangeant, en essayant d'atteindre l'universel d'une pensée. C'est impossible sur les réseaux sociaux.
Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. On est tous focalisés sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est souvent du niveau de graffiti qu'on laissait autrefois dans les WC des cafés. Il y a des endroits où on peut discuter sur Internet.
Alors, on peut discuter sur Internet, mais entre soi, ça c'est la première chose. C'est-à-dire qu'effectivement, si je suis dans une communauté de savants qui parlent le même langage et avec des gens qu'en général j'ai déjà rencontrés, bien sûr, on peut produire de l'intelligence artificielle. Mais si vous entrez en voulant que votre parole soit entendue sans connaître le destinateur, vous tombez très vite dans le piège qui est au cœur, je pense, des dérèglements de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qui contamine, je crois, aussi beaucoup la vie politique, la vie démocratique. C'est que pour être entendu, il faut parler plus fort que l'autre, il faut parler très fort, il faut aller à l'innommable. Et ça, évidemment, ça n'est pas comme ça qu'on construit une agora politique. Ça n'est pas en cherchant à crier plus fort que votre adversaire que vous allez réussir à élever l'intelligence globale de l'humanité.
Dans ce livre, Daniel Cohen, ce qui vous intéresse, c'est la civilisation qui vient. Alors, qu'est-ce que la révolution numérique a changé à la société de consommation, par exemple, telle que nous la connaissons ?
Alors, elle change d'abord une première chose, c'est que son but ultime, c'est de tout faire entrer en ligne, dans le net. C'est-à-dire ce que l'idéal type que je recherche, la société numérique, c'est une société de consommation où vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous et tout est à votre disposition en quantité infinie, les chansons, les films, la médecine, le travail lui-même, à condition que ça se passe en ligne. Donc c'est un travail extraordinaire de dématérialisation. Et quand l'humain est nécessaire, quand même, je pense là pour le coup à des algorithmes comme Tinder, on va réduire au maximum le temps qui est nécessaire pour rencontrer un partenaire, mais le temps avec le partenaire lui-même est réduit à la portion congrue.
Ça dépend des partenaires.
Ça dépend des partenaires.
Je le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas Tinder, vous faites allusion à une application de rencontre.
Une application de rencontre. Donc, encore une fois, c'est toute l'ambivalence de la révolution numérique. En première intention, c'est bien, c'est intéressant. Ça permet de rencontrer des gens qui ne sont pas dans le cadre étroit de votre vie sociale. Le problème, c'est que ça devient très vite, malheureusement, comme le travail à la chaîne, c'est-à-dire que la recherche qualitative de rencontres nouvelles devient très vite une recherche quantitative, c'est-à-dire qu'on veut le maximum de partenaires, qui est la promesse aussi de Tinder. Et donc la personne que vous rencontrez n'est pas une personne avec laquelle vous envisagez de faire votre vie, même si c'est possible aussi, mais c'est une série dans une dans un nombre aussi grand que possible de rencontres possibles, et la personne que vous rencontrez n'est plus une personne en réalité, quand vous basculez dans ce versant-là de la vie sur Internet.
Mais on pouvait dire ça aussi des boîtes de nuit. Hein.
On pouvait dire ça des boîtes de nuit, mais il y avait quand même une contrainte, c'était de se rencontrer tout de suite en face à face, dans un groupe social, vous vous déplaciez, et on ne pouvait pas faire du travail à la chaîne dans les boîtes de nuit qu'on peut faire maintenant avec Tinder. Et il y avait toujours quand même un moment je crois, enfin vous connaissez mieux les boîtes de nuit que moi, mais je crois qu'il fallait quand même faire la cour à la personne, il fallait
mais
la séduire.
Mais il paraît que sur Tinder aussi.
Je crois que sur Tinder, la cour, c'est l'envoi algorithmique que vous avez envoyé sur votre personnalité, sur votre visage, sur vos différentes caractéristiques. Et encore une fois, tout est fait pour que ça aille très vite et que vous puissiez passer d'une personne à une autre aussi vite. Encore une fois, je ne veux pas faire le vieux con qui explique que c'était mieux avant, etc. Je pense que c'est une promesse extraordinaire de pouvoir faire en sorte que la sexualité, la recherche d'un partenaire, quel que soit...
De multiplier les rencontres.
Voilà, multiplier les rencontres, ça ne me gêne pas du tout que cet instrument permette de le faire, encore une fois, en sortant du cadre où on vit. Le problème, c'est que la promesse, c'est la multiplication, c'est le passage du qualitatif au quantitatif, et c'est l'équivalent moderne du travail à la chaîne dans les relations
la promesse,
avec les gens.
La promesse, c'est l'abondance, au fond. Le président de la République a parlé de la fin de l'abondance. Pourtant, c'est ce que la révolution numérique nous promet, l'abondance, la gratuité, au fond, le retour à la société nomade des chasseurs-cueilleurs.
Il y a quelque chose de cette nature, en effet, je fais dans le livre un parallèle, c'est-à-dire cette idée qu'on n'est plus fixé sur un territoire, qu'on peut partir au gré de la vie et des rencontres et des découvertes. Le seul problème qu'on découvre, c'est qu'en réalité, cette vie nomade, sans attache, elle est profondément anxiogène. L'anomie sociale, qui est le fait que vous vous retrouviez seul, que vous n'arriviez pas à trouver une place, n'est pas guérie par Internet. Elle est augmentée, puisque, encore une fois, les associations, les rencontres que vous faites, elles sont surtout des rencontres qui se font par exclusion de la vie réelle. C'est des rencontres qui sont faites pour vous maintenir, en fait, dans un rapport d'addiction à l'algorithme que vous utilisez. Donc, il n'y a pas ce plaisir, cette satisfaction de la rencontre au sens large. Il y a cette multiplication, en effet, encore une fois... Plutôt de l'ordre du quantitatif que de l'ordre du qualitatif.
La révolution numérique, pour l'instant, n'est pas génératrice de croissance. Elle détruit beaucoup plus d'emplois qu'elle n'a l'air d'en créer. Mais elle fabrique du temps libre, elle fabrique des croyances, elle fabrique de la surveillance, elle fabrique des tribus aussi. Il est devenu beaucoup plus facile de se distinguer, de s'isoler qu'autrefois. On n'est plus obligé de vivre tous ensemble.
Voilà, mais le point, encore une fois, c'est que vous êtes... quand vous allez rejoindre sur Internet... un groupe, en fait, vous n'êtes pas à la recherche d'une communauté large, vous êtes à la recherche d'un groupe qui, au fond, d'une certaine manière, pense exactement comme vous. Donc, en réalité, la rencontre, qui est la recherche de l'altérité en général, elle est impossible sur Internet. Quand l'usage concret que vous faites quand vous allez chercher une information sur Internet, c'est jamais une information neutre et objective, c'est presque toujours et systématiquement la confirmation des préjugés que vous avez. Si vous pensez que la guerre en Ukraine a été déclenchée par le groupe Engie pour bénéficier de la hausse du prix du gaz, vous allez trouver un million de personnes qui pensent comme vous. Et donc vous allez vous retrouver assemblés dans une espèce de ghetto numérique avec en effet une tribu, un clan, qui va être en réalité soudé par la détestation des idées contraires et où vous n'avez pas accès à autrui en tant qu'il va pouvoir, dans cette discussion philosophique auquel je fais allusion, n'allez pas avoir de contradiction possible.
Vous dites Internet fabrique un monde selon nos désirs. Dans ce sens-là, c'est assez juste. Mais en même temps, la civilisation qui vient, c'est une civilisation qui peut disparaître et qui en a conscience et qui en a peur. Est-ce qu'il y a eu des précédents ?
Alors, aucune civilisation connue, il y a des contre-exemples de petites îles, etc., n'a renoncé à la tentation d'aller au bout de ses possibilités. Les grands empires se sont effondrés. Il y avait une formule célèbre dans les années 80 d'un grand historien qui s'appelait Paul Kennedy. Il appelait ça l'impérial overstretch, c'est-à-dire on va jusqu'au bout de ce qu'on sait faire. De même, il y a un ethnologue, sociologue, je ne sais pas comment le caractériser, qui s'appelle Georges Bataille, qui a écrit un livre qui s'appelle La part maudite. Et qui
on
dit
peut dire un écrivain. Pour
un Georges écrivain Bataille. Pour aller très vite. Voilà, exactement. Un vrai, voilà, très bien, parfait. Qui a écrit sur l'érotisme, il a écrit des choses tout à fait admirables. Mais là, dans La part maudite, il fait un livre d'économie, en tout cas c'est comme ça qu'il le décrit, c'est comme ça que je l'ai lu, où il explique qu'on va toujours au bout de ce qu'on sait faire. Alors, ce n'est pas toujours de l'économie au sens, nous, fabriquer du PIB. Par exemple, il dit, voilà, au Tibet, aller au bout de cette possibilité, c'est avoir le plus grand nombre de sages qui vont étudier. Et toute la société est prête à s'épuiser pour avoir le plus grand nombre de moines tibétains qui vont atteindre la sagesse. Au fond, dans la religion juive aussi, il y a quelque chose comme ça. On travaille pour permettre au plus grand nombre d'étudiants en yeshiva de connaître le Talmud. Donc, on va au bout de possibilités dans une direction qui, d'une société à l'autre, peut être complètement différente. Mais on va au bout de ce qu'on sait faire. On ne sait pas se retenir collectivement parce qu'il y va de notre identité collective. C'est ce que nous sommes. Il faut aller au bout de nos possibilités. Je crois qu'Internet nous entraîne absolument au bout de nos possibilités technologiques, même si on doit en sortir essoré, épuisé et au fond déshumanisé.
Homo numericus, la civilisation qui vient, c'est le titre de votre nouveau livre, hein, Daniel Cohen, ça vient de paraître chez Albin Michel. Merci d'être passé par cette émission. On se retrouve juste après une pause avec Gilbert Thiel. On va parler des acquittés.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Gilbert Thiel.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous avez été juge d'instruction pendant 4 décennies, dont 19 ans consacrés à la lutte antiterroriste. Et vous publiez aujourd'hui un livre de 450 pages intitulé « Faites entrer l'acquitté ». Mais il s'agit pour la plupart d'entre eux de criminels qui auraient mérité d'être condamnés. Hein, et vous en ajoutez d'autres qui ont bel et bien été condamnés. Je me demande si l'acquittement, ce n'est pas le cauchemar du juge d'instruction.
Non, pas forcément. Ou alors c'est avoir une idée un peu réductrice du juge qui serait payé au résultat, le dit résultat consistant en une condamnation. Non, le juge d'instruction est là pour essayer de faire la lumière sur les faits et puis de séparer le bon grain de l'ivraie.
Mais si vous envoyez quelqu'un devant un tribunal, c'est que vous le pensez coupable. Et s'il est acquitté, c'est votre travail qui s'en trouve désavoué, non ? Vous pouvez le prendre mal.
Oui, enfin, c'est une vision un peu journalistique de la chose. Vous savez très bien que les juridictions de jugement jugent au regard des preuves de culpabilité qui y sont rapportées. Le juge d'instruction, lui, lorsqu'il renvoie quelqu'un devant une juridiction correctionnelle ou a fortiori criminelle, c'est parce qu'il estime qu'il existe des charges suffisantes pour le faire juger. C'est un premier tri, en quelque sorte, pour éviter de faire juger des gens qui, manifestement, n'ont rien à voir. Donc, on anticipe une décision d'acquittement ou de relax selon les cas. Mais par contre, il y a des cas où on peut juger vraisemblable, en quelque sorte, que l'auteur qui a été mis en examen est l'auteur des faits, mais il appartient à d'autres de juger, à la juridiction de jugement de statuer, mais cette fois-ci en termes de preuves.
Je comprends mieux. En tout cas, c'est un très bon sujet, hein, les acquittés. Et il y a en effet des acquittés dont on se demande comment ils ont fait. Ils confessent leurs crimes et pourtant ils sont acquittés. Et on se dit par quel miracle. Est-ce que vous avez trouvé l'équation ?
J'en ai trouvé quelques-unes, notamment dans le domaine politique, pour un cas très très célèbre, celui de Ferdinand Valsin et Sterazi, le véritable traître dans l'affaire Dreyfus. En 1899, il va être acquitté par le Conseil de guerre parce que les militaires, sentant que l'affaire tournait mal au regard de leurs affirmations de la culpabilité de Dreyfus, se sont dit, ont été le trouver en disant, mais il va falloir que tu passes devant le Conseil de guerre, ne t'inquiète pas, sur les 12 membres, ils nous sont tous acquis et tu seras acquitté dès le lendemain. C'est effectivement ce qui s'est passé, c'est ce que j'appelle un acquittement bouclier, parce qu'une fois qu'on a bénéficié d'une décision d'acquittement, on ne peut plus être rejugé une seconde fois pour les mêmes faits, en raison de l'application de la règle non bis in idem, mais en application de l'autorité de la chose jugée.
Dans le cas d'Esterhazy, je rappelle que c'est le véritable auteur du fameux bordereau qui a fait condamner Dreyfus. Or, dans cette affaire, tous les innocents trinquent. Dreyfus, Émile Zola qui prend sa défense, le commandant Picard qui apporte la preuve de son innocence et de la culpabilité d'Esterhazy. Tout le monde est condamné à la prison, sauf Esterhazy, que l'on acquitte alors qu'on sait qu'il est un traître. Et même pour des militaires qui cherchent à se protéger, c'est quand même étonnant. Ils ont un traître devant eux.
Oh non, non seulement c'est étonnant, mais c'est scandaleux, mais il faut se reporter pour essayer d'avoir quelques clés de compréhension, mais pas de bénédiction ou d'admission. à l'antisémitisme forcené de l'époque. On est quelques décennies après la défaite française contre la Prusse, et on considère à cette époque, comme chaque État défait, qu'il faut trouver des responsables. Il y a un véritable antisémitisme récurrent, notamment dans l'armée française, et on va décider d'emblée, en quelque sorte, au bout de 3-4 jours d'enquête, que le capitaine Dreyfus allait faire un coupable idéal sur la base d'une étude graphologique particulièrement contestable et qui avait été menée par un militaire qui s'était en quelque sorte autoproclamé expert dans le domaine de l'expertise en écriture.
Acquitté aussi Louis Grégory, qui tente d'assassiner Dreyfus lors de l'entrée d'Émile Zola au Panthéon. Oui. Encore un acquitté.
Qui reconnaît avoir tiré sur le traître Dreyfus, qui à l'occasion de son procès va essayer de refaire le procès de la révision dont avait bénéficié le capitaine Dreyfus. D'ailleurs, on est bien obligé de constater que prudemment, les politiques qui, dès la mort d'Émile Zola, ça doit être en 1902 si ma mémoire ne me fait point trop défaut, ont attendu prudemment la réhabilitation du capitaine Dreyfus pour que les cendres du romancier soient transférées au Panthéon. Donc, il ouvre le feu à deux reprises sur le capitaine Dreyfus. L'avocat général, à l'occasion du procès d'assises, va prudemment requérir sur la base de violences avec armes, en oubliant la volonté homicide qui caractérisait l'acte violent. Et finalement, on est dans la prolongation de cet antisémitisme et qui imprégnait la société française à cette époque. Et finalement, Louis Grégory, qui reconnaissait être le tireur et qui faisait montre de son antisémitisme encore à l'audience, sera acquitté.
Il y a le cas d'Henriette Caillaux, la femme du ministre et ancien président du Conseil, Joseph Caillaux. Elle en veut au directeur du Figaro, Gaston Calmette, qui mène une campagne contre son mari. Elle achète un revolver, elle vient au Figaro, elle assassine Calmette, elle déclare à la police qu'elle l'a tué pour lui apprendre à vivre, et elle est acquittée. Et elle est acquittée.
On s'est aperçu après coup que le conseiller Louis Albanel, qui présidait la cour d'assises, était un habitué de la table des Caillaux. Qui plus est, le procureur général venait de bénéficier à l'occasion de la promotion du 14 juillet d'une promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Quant au ministre de la Justice qui venait d'être nommé, c'était un ami du ministre, et le ministre avait également recruté un nommé Cecaldi qui faisait venir des truands en Corse à l'audience pour conspuer les témoins à charge et applaudir les témoins à décharge. Et puis l'urne contenant la liste des jurés avait été décellée. On a prétexté une chute dans l'escalier, mais ça avait permis à l'avocat de la défense, qui avait eu avant l'heure la liste de ses jurés, de faire le tri entre ceux qui votaient ou qui étaient soupçonnés de sympathie radicale, donc de sympathie en faveur du ministre, des autres, et donc le tri avait été fait. Donc c'est un dysfonctionnement complet des règles d'éthique de la procédure pénale.
Il y a beaucoup d'autres cas, on va les évoquer. On fait une pause, Gilbert Thiel, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec l'ancien juge d'instruction Gilbert Thiel, qui publie « Faites entrer l'acquitté ». Alors une acquitté qu'on a oublié aujourd'hui, c'est l'anarchiste Germaine Berton qui se rend dans les bureaux de l'Action française pour assassiner Charles Maurras ou Léon Daudet, et qui, à défaut de les trouver, tue Marius Plateau, le chef des Camelots du roi. Elle reconnaît tout, y compris la préméditation, elle est même fière de son geste, et elle est acquittée.
Son grand désespoir, serais-je tenté de dire, car elle voulait acquérir le statut de martyr, donc secrètement elle devait même espérer avoir une peine d'une particulière sévérité. Son avocat va plaider de manière extrêmement simple mais extrêmement efficace en disant « Vous avez bien acquitté en 1919 l'assassin de Jean Jaurès, Raoul Villain, donc vous vous n'avez qu'à acquitter ma cliente. Et à la stupéfaction générale et à la stupéfaction propre de l'accusé, elle a été acquittée.
Oui, c'est vrai, le cas de Raoul Villain, hein, l'assassin de Jaurès, vous le racontez également dans ce livre. Alors là, on a regardé des cas un peu politiques, mais il n'y a pas que des cas politiques, évidemment. Hein. Il y a le cas Jean Doga, un ancien communard, devenu gendarme, puis tueur en série. Il a été acquitté deux fois.
Il avait perpétré deux crimes dans le Gers à 10 ans d'intervalle. Et les gendarmes s'étaient dit, mais c'est quand même curieux, dans le secteur de Casaubon où ont lieu les crimes, il ne se passe jamais rien, sauf lorsque Jean Doga est là. Donc il avait été jugé, me semble-t-il, pour ces deux crimes, mais des coïncidences ne font jamais des preuves. Et après cet acquittement, il est rentré dans la gendarmerie nationale, il a été affecté dans le coin de Remiremont. Et
là, il est devenu tueur en série.
Il avait gardé quelques réflexes professionnels, c'est-à-dire qu'après avoir perpétré deux doubles meurtres dans la région d'Épinal, il avait jugé plus prudent de changer d'air. Il était venu s'installer à Pont-à-Mousson, une localité entre Metz et Nancy. Et là, comme il avait laissé femme et enfant dans les Vosges, il passait son temps dans les débits de boissons et dans les maisons closes, et il faisait des dettes car il avait un gros budget en la matière. Chaque fois qu'il assassinait, parce qu'il a assassiné à 4 ou 5 reprises par la suite, comme il assassinait pour se procurer de l'argent, des femmes seules ou des couples âgés, eh bien, il allait régler ses dettes chez les taverniers et autres tenanciers de maisons closes. Et c'est un policier parisien qui est venu au secours des forces de gendarmerie et de police locale qui n'arrivait pas à trouver la solution, qui s'est aperçu que ce Jean Doga là allait toujours régler ses dettes dans les différents établissements après la commission des forfaits qui avaient été relevés, des forfaits criminels, bien évidemment.
Jeanne Weber, l'ogresse de la Goutte d'Or, elle aussi, elle est acquittée et sous les applaudissements. Hein.
Elle est acquittée sous les applaudissements, mais ça, c'est la versatilité du public, en quelque sorte. Celle qui était traitée d'ogresse de la Goutte d'Or est devenue, après, la victime de la justice aux yeux de certains, après son acquittement, qui est due en grande partie aux affrontements entre les experts. On est dans la médecine légale du début des années 1900. On est en 1905 lorsqu'elle va tuer ses neveux et nièce, et elle va bénéficier d'un premier acquittement car les experts vont réussir à semer le doute dans l'esprit des jurés à travers leurs différentes contradictions, à tel point que lorsqu'elle sera une nouvelle fois impliquée dans un assassinat d'un petit garçon, eh bien, sous la pression généralisée, son avocat, Maître Henri Robert, ayant fait nommer les premiers experts qui lui avaient tant servi, elle va bénéficier d'un non-lieu. Et c'est là où on voit que parfois la vie judiciaire est un enfer pavé de bonnes intentions, puisqu'un juge qui s'appelait le juge Bonjean a dit la justice a fait trop de mal à cette pauvre dame Weber, il faut lui trouver un emploi. Et on lui a trouvé un emploi dans un établissement hospitalier pour petits varioliques, où elle a été surprise en flagrant délit de strangulation d'un petit malade. Et elle va finir sa vie à travers différents internements, puisqu'elle finira par être déclarée irresponsable de ses actes, dans le département de la Meuse, où elle va assassiner sa dernière victime, qui est un petit garçon de 8 ou 9 ans, qui était le fils des aubergistes qui l'hébergeaient.
On pourrait vous écouter pendant des heures, Gilbert Thiel, bien que vous nous racontiez uniquement des histoires horribles. Elles sont toutes dans Faites entrer l'acquitté, qui vient de paraître chez Robert Laffont. Merci Gilbert Thiel.
Merci à vous, Frédéric Tadéhi.
Et bon dimanche.
Bon dimanche à vous aussi, au revoir.
Europe 1.